Alors, je ne sais pas si tu es déjà allé au Portugal, Rémi, mais j'ai
pas
l'impression qu'en ce moment, Lisbonne, c'est une destination plutôt à la mode. À la mode pour les touristes, mais pas trop pour les économistes, puisqu'on en parle assez peu. C'est un assez petit pays du point de vue du commerce international, mais j'ai malgré tout croisé depuis le début de l'année plusieurs articles consacrés entièrement au Portugal et qui se ressemblaient tous beaucoup. Tous s'étonnaient de la situation portugaise en 2017, notamment.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a d'étonnant, cette situation portugaise ?
Eh bien, tous les articles que j'ai lus, écrits majoritairement par des libéraux, il faut bien l'avouer, s'étonnaient du succès économique du Portugal en 2017. Il faut se rappeler que le Portugal a été mis dans une situation très difficile au moment de la crise de 2008, à l'instar de la Grèce ou de l'Espagne, par exemple. Mais contrairement à ces pays qui souffrent encore aujourd'hui des conséquences à long terme de la crise, le Portugal semble presque s'en être sorti, puisque les indicateurs économiques ont été encourageants donc l'année dernière. Et cela étonne d'autant plus les libéraux que je lis, car ça arrive alors que le gouvernement d'António Costa, en place depuis 2015, est tenu par une coalition des gauches, qui inclut notamment des extrêmes et qui avait été élu sur un programme contre l'austérité.
Merci la gauche alors.
Oui, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. D'après les articles que j'ai lus, la performance économique du Portugal vient plutôt des conséquences à moyen terme des politiques imposées par l'Europe et le FMI. Alors je ne sais pas s'il faut les croire sur parole. Pour vous aider à vous faire une idée à vous, il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Les difficultés du Portugal commencent en fait bien avant la crise, dès 1995, alors qu'on commençait à préparer la zone euro. Alors gardez en tête que ce que je dis est assez simplifié. En gros, à partir de 1995, les grands pays d'Europe ont voulu faire converger les différents pays destinés à rentrer dans la zone euro, et ont notamment commencé à prêter beaucoup d'argent aux Portugais en se disant que ça les aiderait à moderniser leurs infrastructures, c'est-à-dire concrètement à construire de nouvelles usines, plus modernes, etc. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. L'argent prêté, plutôt qu'être utilisé pour construire des usines, a été utilisé pour acheter directement des produits à l'étranger. Ce qui fait que les Portugais se finançaient des achats à l'étranger, non pas avec leurs propres ressources, mais en empruntant de l'argent sans se moderniser. Ce qui en soit une situation qui semble assez malsaine, et que les tenants de l'austérité tiennent à rappeler souvent, mais bon, hein, qui après tout ne faisait de mal à personne et qui fonctionnait bien.
Enfin, qui fonctionnait jusqu'en 2008, parce qu'après je crois que ça s'est un petit peu gâté.
Effectivement, et ce qui s'est passé en 2008, c'est que les pays qui prêtaient au Portugal n'ont plus vraiment les moyens de le faire, et ont coupé d'un coup tous les flux d'argent. Le Portugal, qui en dépendait beaucoup de ses flux à ce moment-là, s'est retrouvé en terrible difficulté, à tel point que le pays a dû faire appel à l'Europe et au FMI pour lui venir en aide, aide qui lui a été accordée, contre une promesse d'un plan d'austérité drastique. Toutes les dépenses de l'État, notamment, ont été coupées. L'effet direct, c'est que ça a empiré les choses, en fait, puisque si les Portugais dépensaient une grosse partie de leur argent en importation, une partie était tout de même dédiée aux entreprises du pays. Et les politiques d'austérité se sont ajoutées à l'arrêt des prêts pour encore plus réduire les ressources des Portugais, en baissant les aides sociales, les salaires des fonctionnaires, etc. De telle manière que les gens achetaient encore moins aux entreprises portugaises, et beaucoup de ces entreprises ont dû fermer, ce qui a eu tendance à augmenter le chômage.
Mais alors comment le Portugal s'en est-il sorti finalement ?
Alors d'abord, il faut dire qu'il a pas mal profité de l'amélioration générale de la situation mondiale. C'est notamment vrai pour le cas du tourisme. Comme je le disais au début, le voyage au Portugal est assez à la mode depuis quelques années. Les revenus du tourisme sont ainsi passés de 6 milliards en 2008 à 14 milliards en 2017. Mais les autres exportations ont aussi beaucoup augmenté, notamment dans le secteur automobile. Et une autre raison qui doit être mentionnée malgré tout, c'est le rôle des politiques d'austérité dans la composition de l'investissement, qui est plutôt un rôle positif, puisque les politiques européennes, donc d'austérité, ont fortement réduit l'investissement, mais ont aussi eu pour effet que les investissements des entreprises se soient concentrés sur des choses plus fondamentales et plus durables, comme les équipements technologiques, les logiciels de gestion, etc., qui font qu'aujourd'hui les entreprises portugaises sont de meilleure qualité générale et sont plus compétitives aussi.
Et finalement, c'est à l'austérité qu'on dit merci.
Oui, mais comme je te disais, ce n'est pas sûr non plus, et je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à entendre ça ici. Les effets de la politique européenne sont contrastés et aussi délétères que positifs, peut-être probablement plus délétères que positifs d'ailleurs. Et c'est assez certain. Ce qui est assez certain à mon sens, c'est que la politique du gouvernement Costa aujourd'hui est plutôt la bonne. Si le Portugal a amélioré ses comptes et ses exportations, il reste un vrai problème du volume d'investissement, notamment dans les secteurs clés comme la construction. Ceux qui sont allés à Lisbonne savent que on voit encore beaucoup d'immeubles ou de maisons abandonnées et pas mal de misère. Les blessures de la crise sont également encore très visibles. L'investissement est 12 fois inférieur à ce qu'il serait si on avait suivi le train qu'il y avait avant 1995. Donc il est certain qu'il faut stimuler la croissance intérieure, par la relance notamment. Mais je pense que l'Europe le sait, et d'ailleurs la situation portugaise montre que l'époque des combats brutaux entre les tenants de l'austérité à l'allemande et les tenants d'une relance plutôt dans les pays méditerranéens qu'on voyait il y a 2 ou 3 ans, à une époque où on parlait du Grexit, c'est une époque donc plutôt finie. Mario Centeno, le ministre des Finances portugais, que l'on voyait en 2015 comme une sorte d'Alexis Tsipras en un peu plus modéré, a notamment été nommé à la tête de l'Eurogroupe en janvier 2018, avec des appuis de poids de la part de l'Allemagne et de la France. Alors la question qu'il reste, c'est est-ce que le reste de l'Europe arrivera à s'inspirer du soleil portugais ?
Merci beaucoup Robin, on se retrouve d'ici quelques années pour répondre à cette question. Alors je vous avais annoncé le sport pour maintenant, mais un petit souci lié à un délai de rédaction de script, n'est-ce pas François-René, repousse très légèrement la chronique, mais qu'à cela ne tienne, avant de passer à la culture, on va quand même pas se quitter sans une dernière petite actu.